Bonjour à toutes et à tous, et bien re-bienvenue sur l'antenne de Principe Actif où nous sommes actuellement en direct, en live et en public du 6e Salon du Livre de Jeunesse qui se tient au Cadran. Alors hier le samedi 7 novembre et aujourd'hui le dimanche 8 novembre, c'est ouvert jusqu'à 18h, l'entrée est gratuite et bien entendu vous pouvez venir nous rejoindre. Nous, sur cet événement, sur ce Salon du Livre de Jeunesse, nous serons à l'antenne jusqu'à 16h30 pour essayer de vous faire vivre des échanges avec des auteurs, avec des illustrateurs, avec des acteurs également de la littérature de manière générale et de la littérature jeunesse en particulier. Nous retrouverons durant cette heure et demie ensemble plusieurs personnes, hein, à savoir Fanny Ducassé, qui est auteur et illustratrice, Frédéric Biel qui est auteur local, et je tiens à le préciser, c'est un auteur ébroïcien de bande dessinée. Nous retrouverons également Pascal Vatinel, auteur et illustrateur, alors là dans divers domaines, mais nous aurons l'occasion d'échanger avec lui bien entendu. Nous aurons également l'interview de Zahu qui est illustrateur, mais alors là il y aura tellement de choses à dire, mais ça je vous proposerai qu'on le retrouve un petit peu plus tard, et nous terminerons cette émission avec un duo auteur-illustratrice, à savoir Carole Chay et Cécile Roumiguet. Voilà pour le programme de cette émission. À l'empaquetage, nous avons Monsieur Pignon qui opérera pour cette réalisation. Au reportage, c'était notre ami Damien, secondé d'une experte Enola, qui fera cette émission, et puis moi-même pour vous servir durant toute cette émission.
J'ai l'intention de tenir l'antenne 24 heures sur 24 jusqu'à ma mort. Et puis même encore après s'il le faut.
Mais tu crois pas que ça pourrait peut-être finir par être légèrement monotone comme expérience pour l'auditeur ?
Principe actif, 102.4 FM.
Et pour commencer cette émission, nous recevons Monique Jeanbrun. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente de la Bibliothèque sonore d'Évreux, qu'on voit dans ce salon du livre de la jeunesse, avec aussi l'appellation d'honneur de voix. Donc, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'est la Bibliothèque sonore et pourquoi cette appellation de d'honneur de voix ?
Voilà. Alors, la Bibliothèque sonore est une association qui comprend à peu près 116 bibliothèques sonores en France. Et le cœur d'activité des bibliothèques sonores, c'est l'enregistrement d'audiolivres. Et pour enregistrer des audiolivres, nous avons besoin de donneurs de voix. Donc, l'intitulé de notre association, c'est l'Association des donneurs de voix des bibliothèques sonores. Voilà.
Un livre de manière audio, ça s'adresse à des personnes qui n'ont plus la possibilité de lire elles-mêmes, ça s'adresse à des personnes porteuses de handicap, à des feignants. À qui ça s'adresse finalement cette bibliothèque sonore ?
Alors, le prêt des audiolivres est destiné à un public en situation de handicap et qui est empêché de lire, ou pour une déficience visuelle reconnue, ou bien pour des problèmes neurobiologiques dont font partie la famille des dyslexiques, dysphasiques et dyspraxiques. Donc on touche aussi bien des adultes que des jeunes. Voilà.
Pour devenir lecteur de la bibliothèque sonore, comment ça se passe ? Très concrètement, quelqu'un qui nous écouterait, qui dirait « Ah mais je suis dans cette situation, comment ça se passe ? Est-ce qu'il faut avoir une prescription de quelqu'un ? Est-ce qu'il faut juste taper à la porte ?»
Alors, il faut juste taper à la porte, voilà.
Alors si c'est place Dupont de l'Eure,
voilà,
de
on
mémoire.
Est place Dupont de l'Eure, à côté de la Maison de la Santé. Il suffit de venir nous solliciter, ou bien vous nous contactez par mail ou vous nous téléphonez. Nous avons une permanence tous les mardis. Et là, nous vous recevrons et on vous expliquera brièvement comment devenir donneur de voix. On enregistre chez soi, donc il faut disposer d'un micro-ordinateur et d'un micro, et puis télécharger le logiciel Audacity, et là vous avez fait la majeure partie du travail.
Après il n'y a plus que le plaisir, c'est-à-dire
voilà.
Lire.
Et lire, voilà.
Sur les ouvrages, comment ça se passe ? Combien sont référencés ? Est-ce que c'est à la demande que ça peut se créer ? Comment ça fonctionne justement ce fonds de roulement de la bibliothèque sonore ?
Alors, Pour tout ce qui concerne les adultes, on est vraiment dans une logique d'offre. Donc, les donneurs de voix sont porteurs de propositions d'enregistrement. Donc, nous, on vérifie si on a déjà ce livre-là ou pas, pour éviter les doublons, voire les triplons. Par contre, quand on s'adresse à des jeunes, en dehors de la littérature plaisir, on travaille en partenariat avec l'Éducation nationale. On a beaucoup de conventions avec les collèges. Et là, nous enregistrons les ouvrages du programme de français. Donc là, effectivement, on travaille à partir des listes fournies par les enseignants. Donc là, effectivement, on a des titres précis, des éditeurs précis, des collections précises.
C'est justement pour des élèves qui se retrouveraient en situation de handicap de pouvoir quand même accrocher le programme.
Ne pas se trouver marginalisé ou effectivement en grande difficulté sur le plan de la scolarité.
Alors du coup, c'est basé quand même beaucoup sur le partage, parce que je suis un lecteur, je viens de vivre un moment exceptionnel avec un ouvrage, je me dis là j'ai envie de le partager, ça marche comme ça aussi du coup?
Oui, bien sûr, on a ces temps-là. Bon, pour les jeunes scolaires, c'est un petit peu plus difficile, hein, ce temps de partage, mais à la Bibliothèque Sonore, le jour de notre permanence, oui, on a des audiolecteurs qui viennent nous voir et qui s'expriment par rapport aux audiolivres qu'ils ont écoutés. C'est notre tour d'évaluation.
Sur la technique à proprement parler, j'imagine que c'est pas forcément, c'est pas un CD qu'on met dans sa chaîne. Je crois que vous avez des équipements particuliers sur la technique pour écouter l'audiolivre.
Alors, pour
parce que souvent, quand on a un problème de vue, c'est pas uniquement pour lire. Parfois, ça peut être un peu plus global que ça. Ça peut être pour utiliser des appareils électroniques également.
Alors, voilà, on propose pour l'instant un lecteur de CD. Bon, lecteur de CD qui va évoluer puisqu'il pourra lire aussi des clés USB. Et donc là, c'est un appareil un peu spécifique, hein, surtout pour les déficients visuels, avec des grosses touches, avec des allers-retours aisés, donc d'un maniement facile. Voilà, on le propose également aux scolaires qui sont très en difficulté.
Voilà, pour avoir vu vos appareils, ce gros appareil avec des boutons orange
qu'on ne peut pas louper.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un système de navigation dans la lecture aussi.
Oui, tout à fait. Des marches arrière.
Parce que c'est souvent ça le problème. On lit rarement un livre d'une seule traite, hein, surtout s'il est un peu épais.
Voilà. Non, vous faites sur pause et voilà, le livre reste à l'endroit où vous l'avez laissé. Vous le reprenez à la ligne près où vous l'avez laissé. Donc ça, c'est la technique qui le permet.
C'est le marque-page numérique.
Voilà, c'est le marque-page numérique.
Sur l'appareil, est-ce qu'il faut acheter un appareil du coup quand on veut devenir lecteur à la Bibliothèque Sonore?
On prête l'appareil, hein, on reçoit des subventions pour acheter des Victor, puisque c'est le nom de ces appareils-là.
Ils s'appellent Victor.
Voilà, et on les prête bien sûr aux personnes qui en ont besoin.
Alors, est-ce que ça marche comme une bibliothèque ordinaire? C'est-à-dire qu'on vient, on regarde un peu ou on discute un peu sur les ouvrages disponibles, on demande conseil à la personne qui est en permanence. Est-ce que ça, c'est un fonctionnement comme une bibliothèque?
Ou on commande par Internet, ou je ne sais pas. Parce que là, le local n'est pas très important, puisqu'on a des CD. Donc, les CD sont dans des tiroirs, donc ça ne ressemble pas beaucoup à une bibliothèque. Par contre, effectivement, dans le contact avec les personnes, les bénévoles qui font les permanences, oui, on peut échanger sans problème sur les ouvrages. On vous conseille sur notre catalogue, hein, qu'on peut trouver sur notre site Internet ou bien qu'on peut trouver à la Bibliothèque Sonore, puisqu'on a aussi des versions papier de ce catalogue. Voilà.
C'est une association qui fonctionne uniquement avec des bénévoles ou pas? Ça se fait partie des trucs sur lesquels nous sommes sensibles. Hein, nous,
voilà, tout à fait. Il n'y a que des bénévoles. Voilà. Il n'y a pas de salariés, des bénévoles donneurs de temps, puisqu'effectivement toute une partie gestion et une partie temps de présence pour accueillir les audiolecteurs qui le souhaitent, et puis les donneurs de voix. Voilà.
Est-ce qu'on pourrait se dire, là, en profitant du micro, de se dire que quelqu'un qui aurait lu un ouvrage qui le passionnerait, qui aurait envie de partager, il suffirait juste qu'il rentre en contact avec vous pour que ça puisse fonctionner?
Voilà, tout à fait, bien sûr, sans problème. Il suffit de nous... Alors, je ne connais pas le numéro de téléphone par cœur, mais...
Non, mais avec les internets, maintenant, on retrouve facilement les contacts.
Tout facilement, il suffit de nous solliciter et ça sera avec plaisir que nous recevrons ces personnes demandeuses, bien sûr.
Très bien. Merci beaucoup... pardon. Merci beaucoup, Monique.
Merci
Jeanbrun.
À vous. Merci à vous pour de nous avoir accueillis.
Je vous en prie, ça fait partie des initiatives qu'on a déjà croisées, notamment à travers le prix Corzac, notamment
d'accord.
à travers
Madame,
d'autres.
Madame Pietrica, voilà, qui est donneuse de voix chez nous et donneuse de temps.
Exactement. Voilà. J'aime bien aussi ce concept de donneuse de voix, donneuse
voilà.
de temps.
Voilà.
Voilà, on est dans l'échange vers le plus grand nombre et c'est plutôt une bonne chose.
Voilà.
Merci beaucoup
Merci
à vous.
À vous.
Merci. Je rappelle qu'on peut trouver toutes les informations sur le site internet de la Bibliothèque Sonore, voilà. les donneurs de voix. Pas besoin de donner d'adresse aujourd'hui, tout le monde sait faire des...
Bibliothèque Sonore Évreux et voilà.
voilà
on est en tête de liste.
Voilà, les moteurs de recherche font très bien le boulot pour nous. Merci
voilà.
beaucoup,
Merci.
Monique Jeanbrun, d'être passée par nos micros.
Merci.
Nous sommes toujours en direct du 6e Salon du Livre de Jeunesse d'Évreux. Et puis, bien entendu, il y a tous ces acteurs qui font la littérature de manière générale, mais également la littérature jeunesse. Mais il y a le public, les gens qui sont dans les couloirs, les usagers, ceux qui profitent de cet événement pour rencontrer les auteurs, les illustrateurs, les associations présentes, les animations présentes. Et je vous propose tout de suite qu'on écoute un reportage tourné par Enola et Damien.
Bonjour.
Bonjour.
Pourquoi êtes-vous ici?
Alors, nous sommes venus puisque nous connaissions Martine Bourré, qui donc on avait le livre et on est venu faire la dédicace. Voilà.
Pour la petite fille, c'est ça,
voilà,
pour votre
pour
fille,
Cléa.
Super, pour Cléa.
Depuis quand venez-vous?
Alors, c'est la première année qu'on vient.
C'est une grande découverte.
Oui, exactement.
Qu'apporte pour vous la lecture?
Alors, beaucoup d'histoires et puis une compréhension de chaque mot.
Venez-vous par plaisir ou pour rencontrer des auteurs?
Alors, par plaisir, puisqu'on aime lire, mais aussi pour rencontrer les auteurs.
Pour les deux.
Voilà, pour les deux.
Vous avez des coups de cœur?
Bah, pour l'instant, mais il y en a beaucoup. On va voir. On va faire le tour.
D'accord. Merci.
Merci.
Au revoir.
Menahan Street Band avec le titre Light Out, sélectionné par Monsieur Pignon.
Buenas noches.
Tu parles espagnol?
Un poquito.
Et tu crois que tu m'impressionnes? Moi, je sais dire allons à la plage, Monsieur Renard. Vamos a la playa, Señor Zorro.
Principe actif, le mix des cultures.
Voilà, nous sommes toujours en direct de ce 6e salon du livre de jeunesse à Évreux, ouvert à tout le monde avec l'entrée gratuite, bien entendu, l'opportunité eh bien, d'aller rencontrer des auteurs, d'aller participer aux animations, voir les illustrateurs, se faire dédicacer des albums. Voilà, une sortie de dimanche, ma foi, plutôt sympathique. Nous poursuivons les rencontres que nous avons commencées déjà hier en recevant Fanny Ducassé. Bonjour à nos micros.
Bonjour.
Alors, Fanny, vous êtes illustratrice et vous avez tout à l'heure notamment animé un atelier avec des enfants sur le thème du cirque, hein, si j'ai bien suivi.
Oui, 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 en rapport avec mon deuxième album, De la tarte au citron du Thésée des Soies, où il y a un petit peu l'univers du cirque qui m'a inspirée.
Alors dans vos illustrations, alors les auditeurs, je ne sais pas s'ils visualisent, mais avec Internet maintenant, il leur faudra trois clics pour trouver une ou deux illustrations. En tout cas, il y a une particularité, moi j'ai trouvé à vos illustrations, des choses très denses qui ressembleraient quasiment à je ne sais pas, à des pièces de tissu par exemple qui auraient été découpées pour faire les illustrations. Non, enfin, c'est la sensation que ça m'a donnée, je ne sais pas. Bon, après, c'est une sensation personnelle. Ouais. Hein, mais du coup, je voulais que vous nous parliez un petit peu de votre travail d'illustratrice et comment avec quelle technique vous travaillez. Puis voilà, comment est-ce que ça se met en place tout ça? Parce que moi, ça me renvoyait vraiment un esprit de découpage de pièces de tissu.
D'accord. Au textile, j'aime beaucoup les imprimer en textile, donc peut-être que sans que je m'en rende compte, j'ai besoin d'en faire par ce moyen-là. Je dessine tout à la main au feutre. C'est des feutres pro-marqueurs qui en fait ont l'avantage de bien se mélanger entre eux.
Ah, c'est des feutres qui arrivent à se mélanger comme de la peinture, c'est
ça ? Un peu, voilà. Ouais. Donc, sauf qu'on a un aspect beaucoup plus net qu'avec de la peinture. Et stylo très fin. Voilà. Donc du coup, ça me permet de faire vraiment des petits détails très, très fins avec la pointe du stylo qui est assez microscopique. Voilà.
Qu'est-ce que quelle sensation, quel sentiment vous allez chercher chez le jeune lecteur à travers ces illustrations? Est-ce qu'il y a une intention déjà? Est-ce qu'il y a une intention ou il y a simplement votre travail et chacun le prendra comme
oui,
il l'entend?
Oui, exactement. J'ai aucune. Je ne sais pas du tout comment ça pourra être perçu. Voilà, vous me dites par exemple que ça vous fait penser à du tissu découpé. Après, ça, je pourrais pas le prévoir et je vais rien chercher de spécial. Moi, c'est juste que ça me fait du bien de le faire. Ça correspond à mon envie, même un besoin. Et après, si ça fait écho chez des petits lecteurs, des grands lecteurs, alors là, je suis ravie. Mais à la base, c'est pas ça qui va me motiver.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une intention de déclencher des choses à travers
Les ou alors c'est pas du tout conscient, mais peut-être, mais j'en ai pas conscience.
Tout à l'heure, vous animiez un atelier avec des enfants, puis vous en animerez un autre un peu plus tard dans la journée, hein, je crois. Comment ça se passe, le travail? Comment est-ce qu'on initie des enfants au dessin, à l'illustration, à la réalisation? Parce que vous étiez avec des feutres, avec des pastels, je crois.
Oui, il y avait possibilité de découper aussi dans des photos. Moi, j'apprends hein, en même temps que les enfants, parce que... J'ai commencé il n'y a pas très longtemps à faire des ateliers. Enfin, avant j'en faisais, mais c'était pas par rapport à mes livres, donc c'était un petit peu différent. J'aime bien les initier à ma technique, c'est-à-dire au feutre, mais c'est pas forcément évident parce que c'est un matériel quand même assez coûteux et qui peut vraiment se manier quand ils sont grands. Donc vraiment à partir de 6-7 ans, sinon c'est pas la peine. Donc quand j'ai comme ça des ateliers où je sais pas vraiment quels âges, enfin que les âges sont très mélangés, j'essaie de trouver des techniques qui puissent vraiment plaire à tout le monde. Et après j'essaie de le relier par rapport au livre, je leur lis en général l'histoire avant. Et puis donc voilà, ça fait un fil directeur, mais après ils sont libres de... J'ai avant tout, j'espère qu'ils prennent plaisir... à dessiner, il n'y a pas de...
Il réillustre finalement un livre déjà écrit presque, à travers l'inspiration que l'histoire peut leur donner.
Après, il y en a qui sont inspirés par l'histoire, donc du coup c'est marrant, je retrouve des éléments, c'est assez marrant. Et puis il y en a qui n'ont pas du tout envie de se raccrocher à ça et qui vraiment ont besoin de faire leur petite mixture à eux et ils sont libres de...
Et tant mieux aussi,
tant mieux,
finalement.
Oui.
Est-ce que c'est qu'est-ce que ça vous apporte à vous, l'échange avec des enfants? Vous êtes illustratrice, vous travaillez en direction d'un public jeune.
Ouais.
Certains, peut-être même en atelier, sont des lecteurs de vos réalisations. Qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que ça vous renvoie de travailler avec des enfants alors que vous, tout au long de l'année, vous travaillez en leur direction?
Oui, je ne travaille pas vraiment dans leur direction parce que, enfin, en tout cas, quand je dessine et que j'invente une histoire, je réfléchis pas à un public potentiel. Enfin, je m'adresse pas à des enfants en général. C'est pas du tout. Ça veut pas dire que j'y pense pas, mais c'est très flou en fait. Donc du coup, la rencontre est assez surprenante. En général, ça se passe bien. Pour moi, c'est très agréable. Voilà, moi après, dans ces ateliers, c'est vraiment ce que j'ai envie de leur transmettre. C'est vraiment le plaisir du dessin. Vraiment en faisant attention à ce qu'ils ne soient pas obsédés par l'idée de bien faire, de dessiner pour que ce soit joli ou je sais pas quoi, de les décomplexer aussi. Il y en a qui sont souvent très complexés, qui sont un peu bloqués
alors,
à ce niveau-là.
On en parlait hier, alors je ne sais plus avec quel illustrateur, mais en tout cas il nous disait souvent il y a cette notion de vouloir bien faire,
oui,
de vouloir être ressemblant finalement avec une réalité.
Oui, et c'est surtout à partir de... En fait, quand ils sont vraiment petits, ils s'en fichent complètement, ils sont beaucoup plus libres, mais alors oui, à partir de 7 ans, ils sont souvent, j'ai remarqué, assez bloqués sur la feuille. Et du coup, voilà, ça m'apporte vraiment beaucoup de plaisir quand je vois qu'il y a une petite avancée, qu'après l'atelier, ils se sont en fait libérés un peu, qu'ils se sont sentis décomplexés par rapport à ça et qui sont contents de ce qu'ils ont produit eux-mêmes. Et ça, voilà, ça c'est vraiment gratifiant.
Sachant qu'en plus, une illustration, souvent, les enfants les enfants, comme vous disiez, passaient un certain âge ou avec une certaine pression, parce que tous ne l'ont pas, hein, certains s'expriment assez librement sur le papier, mais ces enfants qui ont besoin d'être dans le réel, finalement, on peut renvoyer l'idée aussi que d'un moment, une illustration ou un dessin, c'est finalement sa vision intérieure. Enfin, en tout cas, elle n'est pas obligée d'être ressemblante avec une réalité.
Voilà, c'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est... moi je dessine les renards d'une certaine manière, mais c'est pas c'est ma manière à moi, et eux ont chacun vraiment une manière bien à eux de dessiner les renards, et elle est tout aussi valable. C'est ça que j'essaye de leur expliquer.
Quand on est illustratrice, j'imagine que la patte personnelle est hyper importante. Est-ce que vous êtes, plus particulièrement d'ailleurs, parce que c'est plutôt à vous que s'adresse la question qu'à la généralité, est-ce que vous êtes au bout d'un moment dans un style et c'est difficile d'être hors de ce style? Là j'entends par exemple, j'ai feuilleté deux ou trois ouvrages sur lesquels vous aviez illustré, et je retrouvais la même patte, le même esprit. Est-ce que je ne sais pas, est-ce que c'est parce que c'est comme ça que vous exprimez sur le papier et il n'y a pas d'autre façon?
Je ne suis pas sûre que pour le moment j'arrive à faire autrement, alors...
Vous illustrez aussi pour des auteurs de textes, ou pas?
Non, pas encore.
Est-ce que cet échange est quelque chose qui vous intéresse et comment,
oui.
comment vous l'abordez, vous l'abordez du coup, idée d'illustrer pour d'autres?
Déjà, il faut avant tout que je sois vraiment, vraiment séduite par le texte.
C'est important, ça, que le texte colle.
Sinon, c'est pas la peine. Je me sentirais pas de passer des mois à dessiner si vraiment je suis pas très touchée par le texte. Comme ça m'est encore jamais arrivé...
Ça fait partie des choses qui vous intéresteraient d'illustrer des textes de quelqu'un d'autre?
Oui, si j'ai un coup de cœur pour le texte, oui, tout à fait.
Ça viendrait donc plutôt d'une de vos propositions, alors? Non, vous dites qu'il faut que le texte vous parle.
Ouais.
Ce serait plutôt, faudrait trouver l'auteur et après lui proposer, non? Enfin, peu importe, vous travaillez comme vous voulez.
Peu importe. Ça peut se faire dans les deux sens.
Très bien. Donc, on peut encore vous rejoindre pour 16h, pour l'atelier de 16h.
Oui.
C'est ça, c'est 16h, hein,
oui, enfin, l'atelier est complet.
L'atelier est complet, donc on ne peut pas vous rejoindre pour 16h. Bah, tant pis.
Vous pouvez venir voir quand même.
Nous viendrons voir de toute façon ce qui s'y passe. Merci beaucoup,
merci
Fanny Ducassé, d'être passée par nos micros. Monsieur Pignon, je vous propose que nous écoutions encore la voix de ces personnes qui sont dans les couloirs du cadran, à savoir... Ah oui, vous voulez que je vous le choisisse ? D'accord, mais je viens vous le choisir. Je vous propose à ce moment-là que vous nous envoyiez le sujet réalisé par notre experte Enola qui a rencontré Simon, si ça vous convient. Ah bah maintenant, il faut que vous le cherchiez, vous avez vu ? C'est moins facile hein, quand j'impose un... Voilà.
Bonjour. Bonjour. Pourquoi t'es là ?
Parce que je vais tous les ans au Salon du Livre des Jeunesses pour rencontrer de nouveaux auteurs et de nouveaux livres passionnants.
Qu'est-ce que ça te fait penser quand tu lis des histoires ?
Bah, j'aime bien. J'imagine que je suis le personnage principal et que je joue le rôle du héros parfois.
Tu as déjà essayé d'écrire un livre ?
J'ai déjà essayé d'écrire un livre, mais je n'y arrive pas.
Faut beaucoup d'entraînement.
Oui, beaucoup.
C'est vrai que c'est plus les maternelles, c'est plus les du coup, c'est important.
Tu viens tous les ans ?
Oui. Enfin, oui. L'année dernière, je suis venue. L'année dernière, je suis venue au Salon du Livre.
Qu'est-ce que tu lis ?
Plein de livres, des nouveaux livres qui viennent de sortir, comme ceux que j'aime bien.
Par exemple ?
Bah là, je vois des livres que j'aime bien, des livres de plusieurs façons. Comme j'aime bien Le Chien de Baskerville.
Il y a 96 pages.
Et un autre livre qui s'appelle Simon et aussi Le Prince.
La difficulté, je dois vous l'avouer, c'est que j'ai pas ménagé les écritures. Donc surtout toi qui es en CP.
Et ton prénom ?
Tu vas avoir vraiment beaucoup de difficultés toi à lire. Donc il faudra que papa ou maman t'aide ou quelqu'un t'aide.
Bah, c'est tout.
Non, mais je comprends parfaitement.
Ah, d'accord.
Mais surtout, même...
Bah, au revoir.
We'll be right back.
Mexican Institute of Sound avec le titre Politico, toujours programmé par notre ami Pignon.
C'est trop bien la radio!
Principe Actif 102.4 FM.
Voilà, et nous poursuivons cette émission toujours en direct du Salon du Livre de Jeunesse au Cadran des Vrais. Vous pouvez encore nous rejoindre jusqu'à 18h. Nous recevons maintenant à nos micros Frédéric Biel. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Frédéric Biel est dessinateur de bande dessinée, oui. Et d'Evreux. Ça, oui. C'est un des éléments qu'on trouvait intéressant, que les auteurs hébreuxiciens soient aussi représentés sur ce salon du livre de jeunesse. Juste en amont, là, pendant la pause musicale, je vous posais la question, c'est est-ce qu'il y a d'autres auteurs hébreuxiciens? Alors, il y en a d'autres.
À ma connaissance, je n'ai pas forcément vu tout le monde, mais il y a effectivement Martine Bourg, par exemple, qui est illustratrice jeunesse et auteure d'albums. Et qu'est-ce que je disais aussi? Oui, donc il y avait une jeune dessinatrice qui s'appelle, son pseudo c'est Savant, et qui fait des BD pour enfants.
C'est important de rencontrer son public, de rencontrer les lecteurs à des moments comme un salon du livre.
Oui, alors les lecteurs, et parfois des gens qui vont devenir lecteurs, parce qu'il y a ceux qui vous connaissent, qui ont déjà lu vos albums, et puis il y a ceux qui passent par là, alors c'est plus vrai pour ce type de salons qui sont plus des salons familiaux, où là vraiment il y a des gens qui ne vous connaissent pas forcément et qui découvrent votre travail. Puis il y a les lecteurs qui suivent vraiment ce que vous faites, et ça on les voit ici, mais on les voit plus sur les festivals BD. Voilà. Et puis il y a le fait de se rencontrer aussi entre auteurs. On ne se connaît pas forcément tous, bien évidemment. Il y a des milliers de personnes qui font ce métier entre la bande dessinée et l'édition jeunesse. Donc là, c'est aussi des occasions pour se rencontrer.
Alors du coup, que se racontent deux auteurs qui se croisent? Discussions, alors hormis la météo et tout ce qui va avec, hein, mais c'est...
Oui aussi.
Hormis ces discussions, c'est quoi? C'est des collaborations à venir? C'est le regard sur ce qui se fait?
Ça s'est pas encore produit, ce genre de choses, le fait de monter un projet comme ça avec quelqu'un que j'aurais rencontré, mais... On peut parler d'expérience de travail, on peut parler cinéma. Là, on parlait avec mon collègue voisin, on parlait d'Interstellar il y a encore 10 minutes, quoi. Voilà. Donc, on peut parler de ça. Le fait est que, par exemple, les dessinateurs de BD parlent énormément, et même les scénaristes, énormément de cinéma.
Oui, parce qu'il y a un lien entre la BD et le cinéma.
Alors, il y a un lien. C'est pas dire qu'on aimerait en faire. On s'en nourrit beaucoup, en fait. Parce que c'est quand même un art d'image et surtout un art du récit. Et un art du récit par l'image. Donc c'est quand même un peu ce qu'on fait, quoi. D'une autre manière, mais c'est un peu ce qu'on fait.
Il y a des BD qui s'adaptent d'ailleurs assez facilement au cinéma et réciproquement. Hein. Il y a quand même beaucoup de points communs.
Oui, alors il y a des points communs. Oui, mais en même temps, regardez à quel point il a été difficile et long de réaliser des adaptations satisfaisantes, par exemple des histoires de super-héros. Il a fallu vraiment attendre que les effets spéciaux soient au point, qu'on puisse s'affranchir de la pesanteur, s'affranchir de tout un tas de contraintes physiques pour donner à l'image une vision crédible de ces personnages-là. Parce que honnêtement, c'est longtemps resté un peu ridicule, quoi. Donc c'est pas si évident que ça. La BD est beaucoup plus libre. C'est quand même un art graphique. Et avec un dessin, vous pouvez tout dire, tout faire.
C'est rarement à la hauteur de la BD les adaptations, hein, de toute façon.
C'est à la hauteur d'ailleurs si on l'a trahi, cette BD. Comme toute traduction, elle est valable que si elle trahit, en fait, hein. Donc si elle se réapproprie vraiment le sujet.
Vous écrivez plus pour un public ado
et adulte.
Comment se passe le travail en atelier, en amont, quand on a une idée? Vous travaillez aussi pas mal avec des scénaristes BD. Alors comment se passe un peu avant qu'on ait un album en main? Quel a été un peu le processus?
En fait, moi je travaille plutôt seul, en fait. Enfin, seul. Voilà, mon travail de dessinateur, je l'effectue seul. Par contre, et oui, on me propose, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on me propose des projets, des sujets, des scénarios. Et quand ça me plaît, ben, voilà, je me lance dedans. On signe un contrat avec l'éditeur. Alors, parfois, l'éditeur est partie prenante dès le début. S'il n'y a pas d'éditeur, ben, il faut en trouver un. Voilà. À partir du moment où on se lance dans ce projet, on se voit de temps en temps avec les scénaristes. Moins qu'avant, peut-être, parce que maintenant, il y a Internet. Donc on communique par mail, on communique par Facebook et autres. Autrefois, on se voyait davantage, peut-être, autour d'un verre de vin ou autre. On montait à Paris. Voilà, on le fait encore, mais moins.
Alors, du coup, c'est quoi ? C'est les scénaristes qui vont avoir une histoire complète, oui. J'imagine. Et puis, vous, dessinateur, qui allez dire, bah, ça, je le vois plutôt comme ci, comme ça, ou c'est l'exécution d'un scénario déjà bouclé ?
Alors là, ça dépend vraiment du parcours de chaque auteur. En ce qui me concerne, et au fil du temps, j'ai plutôt développé une approche assez personnelle des scénarios qu'on propose. Et si on me propose un sujet, c'est parce que les scénaristes les éditeurs savent que je vais me l'approprier.
C'est-à-dire qu'ils vous ont repéré et ils se disent, voilà,
ils connaissent mon travail, voilà. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Donc après, voilà, si on me propose un sujet, c'est qu'on pense que ça peut me concerner, ça peut me plaire et je peux le traiter correctement. Et à partir de ce moment-là, on peut quand même passer du temps de temps en temps à discuter sur certains aspects graphiques, sur les personnages, sur les sujets de décor, enfin voilà. Et puis ensuite, je suis relativement autonome, en fait. Et là, je me lance et je fais mes choix de mise en scène. Parce que quand on est dessinateur de bande dessinée, vraiment, on est à la fois comédien, metteur en scène, costumier, accessoiriste, décorateur.
Voilà. Notamment, au mois de juin est sorti le deuxième tome de L'Or,
oui.
Chez Futuropolis.
Oui.
Ça se passe en Guyane, c'est ça ?
Alors, ça se passe en Guyane dans les années 2000. Et c'est, voilà, c'est semi-contemporain dans le sens où vraiment il s'est passé des événements là-bas autour de la recherche de l'or, c'est une sorte de ruée vers l'or, hein, et dans les années 2000, parce que de l'or a été trouvé dans la forêt, donc des tas de gens sont venus pour essayer de devenir riches.
Et c'est quasiment un phénomène social, parce qu'il y a tout, oui, ce qui, oui, va avec notamment le mercure, les,
exactement,
rivières, enfin tout ça. Du,
voilà,
coup, quand on s'attaque à un sujet de ce type, j'imagine qu'il a, on se documente en amont.
Oui.
Enfin,
oui,
y a un travail de recherche pour être le plus fidèle du
oui,
d'une espèce de réalité.
Oui. Alors là, on trouve quand même pas mal de documentation. Il y a des livres. Bon, le scénariste lui-même avait mené une enquête sur place et ensuite. Donc quand moi on m'a proposé ce sujet, j'étais, voilà, je suis arrivé, il y avait déjà comment dire, toute une enquête qui avait été menée. J'ai discuté avec le scénariste, bon, et moi-même j'ai lu des tas de choses, j'ai essayé de trouver des photos, des documents.
Oui, parce que la photo est nécessaire, j'imagine, pour alimenter.
Oui, et puis en plus, quand on doit, il y a un léger décalage dans le temps. J'ai commencé la série, le Thomas, en 2013. Ça se passait 13 ans avant. Ça a changé beaucoup. Il y a des coins de Guyane où il n'y avait pas de voiture, ou une ou deux, quand notre histoire se passe. Maintenant, il y en a quand même plusieurs, enfin, dans les villages de forêt. Donc, il se trouve que là, par contre, j'ai eu la chance, avec le scénariste, d'aller en Guyane cette année.
Ça, c'est
donc
cool.
Après avoir fait les deux premiers tomes. Donc, ça nous a permis vraiment de confronter notre expérience, le travail qu'on avait pu mener avec l'expérience du terrain.
Et donc voilà, il y a un enjeu quand même, du coup, quand on arrive sur les dessins, parce que bah, voilà, il y a des gens sûrement qui connaissent le sujet,
oui,
qui vont,
oui,
lire la BD.
C'est ça.
Il faut qu'ils s'y retrouvent, du coup.
Mais oui. Et moi, ce qui m'épate d'ailleurs, c'est que quand j'ai dédicacé cet album, donc le premier puis le deuxième, aucun lecteur ne m'a dit, mais dis donc, c'est un petit peu une blague, votre truc, c'est pas sérieux, c'est pas vrai. Étrangement, la bande dessinée, même maintenant, est prise au sérieux. C'est-à-dire que si on met en scène certains événements, on y croit. Voilà, le lecteur croit que c'est vrai. Et le fait est que ce qu'on raconte dans cette histoire. Il y a des parties romanesques, mais le fond est complètement réel et complètement vrai. Voilà.
Dans la BD, du coup je rebondis sur l'or justement, dans la BD il y a aussi cette notion de série, qui est, vous parliez tout à l'heure du cinéma, mais alors je le rapproche aussi de ce format qui a été d'ailleurs réapproprié surtout ces quelques dernières années avec la série télévisée qui a vraiment pris une autre dimension relativement récemment.
Oui.
Est-ce qu'on est dans cette idée aussi dans la BD de la série qu'on retrouve plus facilement en bande dessinée qu'en littérature livre.
En littérature, ça existe quand même pas mal dans la littérature de genre, le polar, la SF, tout ça. On retrouve ça quand même, même dans la littérature française, on trouve des jeunes romanciers qui fonctionnent un peu, même en termes de saison, d'épisodes, ça. Effectivement, là, on est dans le feuilleton. Donc, de toute façon, la bande dessinée, la télévision et la littérature populaire ont les mêmes sources. Donc, effectivement, là, notamment, puisque la série télé a pris une proportion particulière, a pris une dimension particulière avec les chaînes privées du câble, notamment aux États-Unis, eh bien, ça a redonné une forme, une sorte de cohérence formelle au roman comme à la BD qui s'en inspire. Même si au départ, il y avait déjà ça. Mais pour le coup, nous, par exemple, notre série sur l'or, c'est pas une série qui va faire 12-13 tomes. Elle fait d'emblée 6 épisodes, un peu comme les mini...
C'est déterminé dès le début.
Voilà, un peu comme les mini-séries façon trop détective où il y a 8 épisodes et c'est comme un roman, il y a un début, un milieu, une fin. Simplement, il y a comme des chapitres, voilà. Et notre histoire, c'est un peu ça. Il y a, on va dire, 6 chapitres, mais il y a une histoire qui se tient et qui va de A à Z.
La bande dessinée a été pendant longtemps comme un peu un parent pauvre de la littérature. Oui. On l'entend, enfin, il n'y a plus aucun doute après l'échange que nous venons d'avoir, quand on parle de documentation, quand on parle de tout ça.
Oui.
Est-ce que c'est la littérature bande dessinée, que j'intègre très clairement à la littérature, la bande dessinée,
oui.
Est-ce qu'il y a des passerelles en fait, c'était plus une remarque qu'une question, c'était dans le sens où on sent bien qu'à travers ce que vous nous dites, qu'en fait c'est pas un parent pauvre, c'est bien au contraire un genre de la littérature, tout simplement.
En fait, comme certains genres au sein de la littérature, comme par exemple la littérature d'aventure, plus la littérature d'aventure, comme elle était lue surtout à une époque et aussi par des enfants, cette littérature a été cataloguée littérature pour enfants. Bon. Des auteurs aussi immenses que Jack London et Stevenson ont été, ou même Jules Verne, ont été catalogués auteurs pour enfants. Ont republié, ont réédité leurs livres, et on le fait encore, dans des collections pour enfants, ou pour adolescents. Bon. Et certains adultes se sont interdits de relire ces livres-là. Ils les avaient peut-être lus étant enfants, donc ils se sont dit, maintenant, je vais passer à autre chose et je vais lire du Christine Angot. Bon. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que ces gens-là étaient des vrais écrivains. Évidemment, maintenant, on a tendance quand même à réévaluer la littérature dite populaire et à considérer que c'est la littérature tout court. Donc, effectivement, la bande dessinée profite aussi de cette réévaluation de cette forme d'art.
Frédéric Biel, vous êtes hébroïcien, comme nous le disions en début d'échange. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut vous croiser en dehors du salon annuel du livre de jeunesse?
Je donne des cours à la Maison des Arts d'Evreux, en fait, le vendredi soir et le samedi après-midi. Donc j'anime un atelier bande dessinée de 2h à 5h l'après-midi, le samedi, et un atelier dessin. Donc le vendredi soir. Donc effectivement, là, en dehors de la BD, effectivement, j'ai cette activité de prof dans un endroit qui me tient à cœur.
Très bien, merci beaucoup à vous, Frédéric Biel. On doit mettre un terme à cet échange. J'aurais bien discuté avec vous une demi-heure de plus, mais on va mettre un terme à cet échange pour le moment. Merci beaucoup, Frédéric Biel, d'être passé par nos micros. Monsieur Pignon, je vous propose que nous écoutions un reportage tourné hier par notre ami Damien.
En tout cas, on est toujours en direct du Salon du Livre et on est en compagnie d'Enola. Je ne suis pas tout seul, hein, Enola.
Bonjour.
Bonjour Enola, voilà. Pour prendre des témoignages de personnes, de couples, de parents qui accompagnent leurs enfants. Et a priori, je suis avec une dame. Bonjour madame.
Bonjour.
Qui est avec sa fille Candice. Bonjour Candice.
Bonjour.
Et il y a le papa, bonjour monsieur.
Bonjour.
Voilà. Vous venez d'arriver, vous venez là tous les ans, comment ça se passe votre venue au Salon du Livre madame?
On vient tous les ans, oui, depuis 4 ans à peu près.
Depuis que la Pitchoune est en âge de lire ou que vous lui lisiez peut-être des livres?
Non, je lui lis, oui, et elle commence à lire.
D'accord.
Elle commence à lire toute seule.
Et les raisons de votre venue, elles sont ciblées, c'est-à-dire que par exemple, vous venez pour découvrir de nouveaux opus, de nouveaux ouvrages, de nouveaux auteurs, ou est-ce que vous avez déjà défini un plan d'attaque avec des gens que vous souhaitiez absolument avoir les dédicaces? Comment ça se passe votre après-midi?
Bon, on regarde, on flâne un petit peu, et puis effectivement, on va voir aussi les auteurs pour lesquels on a des coups de cœur, et découvrir aussi des auteurs qu'on ne connaît pas forcément.
Candice, toi, tu as déjà repéré des choses comme ça que tu as vues dans les livres là? Ou est-ce que tu viens d'arriver et puis tu n'as pas encore tout vu?
J'ai déjà tout vu.
Tu as déjà tout vu? Et est-ce que du coup tu as demandé à papa ou maman plus un livre qu'un autre? C'est déjà le cas ou pas?
Oui.
D'accord. Alors ça se passe comment? Est-ce que c'est que avec l'argent de papa-maman ou est-ce que toi tu es venu un petit peu avec ta tirelire? Comment ça se passe pour cet après-midi?
Que l'argent de mes parents.
Bah c'est cool, profites-en, là il y a plein de livres partout, c'est cool. Et vous monsieur, c'est agréable, c'est pas la première fois non plus que vous venez sûrement?
Non, je viens tous les ans avec ma famille.
Et aujourd'hui, pas demain, pas forcément demain, aujourd'hui vous concentrez votre après-midi ou vous êtes capable de faire les fous et de venir sur les 2 jours?
On vient sur les 2 jours.
Ah, vous venez sur les 2 jours?
Oui.
Profitez peut-être aussi des spectacles pour les...
Tout à fait.
Ah, très bien. L'initiative est chouette. Et vous vous laissez aussi porter, vous, par des BD, par exemple ou... Parce qu'il y a le public enfant, mais enfant, il n'y a pas d'âge, en fait, hein, je pense. Vous vous laissez porter aussi par des bandes dessinées, par des spécialistes du comics, des dédicaces ou vous concentrez vraiment votre venue sur votre fille?
Non, c'est uniquement pour ma fille.
D'accord. Vous, madame, par contre, peut-être? Non? Pas du tout?
Non, je suis pas trop BD, mais bon, j'aime bien voir quand même.
Et donc, ce qui est très chouette, c'est vraiment la petite dédicace personnalisée, j'imagine, sur le livre de la Pitchounette, quoi.
Tout à fait.
Donc, c'est pas son premier festival à elle aussi, alors?
Et non.
Je vous remercie, messieurs, dames. Pardon de vous avoir pris long quelques instants, mais c'est très bien pour moi d'avoir un peu de ces instants. Et là, je vous dis au revoir pour de vrai. Au revoir à la radio. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir, Candice.
Au revoir.
Bon après-midi, ma grande. Au revoir, monsieur.
Au revoir.
Voilà, toujours en direct de ce 6e Salon du Livre de Jeunesse à Évreux, au Cadran. Vous pouvez encore nous rejoindre au moins jusqu'à 18h, sans aucun problème. Nous recevons Pascal Vatinel, bonjour.
Bonjour, ça me fait plaisir d'être là.
Ah bah ça, c'est parfait, ça nous fait plaisir de vous recevoir aussi.
Tant mieux.
Voilà, discuter littérature jeunesse, c'est forcément plutôt sympa. Cependant, vous ne faites pas que de la littérature jeunesse, vous faites ado.
Je fais vieillesse aussi, oui. Ouais. Je fais pour tous les âges. Aussi.
Et juste avant, là, pendant le reportage, nous échangions en préparation de cet échange. Vous êtes auteur d'un album là, qui sort là, Mush, l'incroyable Odyssée, aux éditions Actes Sud. Mm-hmm. Et justement, nous avons reçu tout un tas d'auteurs, d'illustrateurs durant cet événement du Salon du Livre de Jeunesse. Et à chaque fois, les auteurs ou les illustrateurs nous parlent à chaque fois de l'éditeur comme un élément important du travail réalisé. Du coup, je vais commencer cet échange en vous demandant quelles sont, vous, les relations avec les éditeurs et en quoi est-ce important ?
C'est en effet important, c'est même essentiel. En plus, là, vous aviez mon éditeur qui était présent pendant tout cet événement, puisque c'est Thierry Magnier qui dirige les éditions Actes Sud Jeunesse.
Voilà, que nous avons reçu hier, d'ailleurs.
Voilà, donc, qui est une pointure, je dirais, dans la littérature jeunesse. Donc, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup de plaisir de travailler avec lui et de travailler... Parce qu'en fait, un éditeur, une maison d'édition, c'est d'abord... Ça peut être plusieurs maisons d'édition, ce qui est le cas de Thierry Magnier, puisqu'il dirige à la fois les éditions Thierry Magnier, Rouergue Jeunesse, Actes Sud Jeunesse, etc. Et donc il y a aussi des éditeurs qui sont responsables des collections et j'ai la chance également de travailler avec un éditeur qui s'appelle François Martin et avec qui j'ai une excellente relation éditoriale, c'est-à-dire que on travaille ensemble sur la préparation d'un livre et donc quand je lui soumets un texte, son regard pour moi est essentiel et dès qu'il me dit ouais j'aime, ben voilà, moi c'est parti, le rayon de soleil est là et on peut démarrer le travail quoi. Donc
Parce que nous, en tant que lecteurs, l'auteur, on voit bien. Mm-hmm. L'illustrateur, on voit très bien. Le dessinateur, c'est très clair pour nous. L'éditeur, bien souvent, on va se tourner vers un éditeur qu'on a déjà vu sur un ouvrage qui nous intéressait, mais finalement, du grand public, le travail de l'éditeur est assez méconnu. C'est-à-dire que vous avez besoin, vous, en tant qu'auteur, que l'éditeur vous dise, vous oriente votre travail. Comment ça se passe finalement? Parce que vous nous dites, bon, à partir du moment où il vous dit j'aime bien, c'est parfait pour vous, vous pouvez commencer, mais est-ce qu'il oriente aussi le travail par rapport, je ne sais pas, à l'air du temps? Est-ce qu'il y a cette notion de vente uniquement, ou il y a la vision artistique également?
Bah, là, je peux vous répondre avec plusieurs anecdotes, mais d'abord, d'une manière générale, l'intérêt de l'auteur est d'avoir confiance dans son éditeur. C'est-à-dire que c'est une chance d'avoir un éditeur, c'est-à-dire un professionnel de la lecture et de la publication qui va regarder votre ouvrage et vous dire « bah oui, ça, c'est quelque chose qui est bien écrit, qui est mal écrit, qui a une chance d'intéresser un public ou pas du tout, etc. » Donc, quand on est auteur, on traverse quand même une période du désert assez terrible, puisque c'est un métier où on doit faire tout le travail et le soumettre à quelqu'un. Et il est évident que quand on a fini le travail, on se demande, et même pendant le travail, moi ça m'arrive souvent, je me dis, mais finalement ce que je suis en train d'écrire, est-ce que ça va intéresser quelqu'un? Et donc c'est le moment de la rencontre avec l'éditeur qui va nous être une première réponse très très importante. Une fois là, il peut se passer deux choses, c'est-à-dire qu'un éditeur peut ensuite dire, bah, écoute, tu as une idée, elle est excellente, mais voilà, elle n'est pas aboutie, donc je vais t'aider à la finaliser. Moi j'ai la chance jusque-là d'avoir fait des textes pour Actes Sud qui ont toujours été pris tels quels, où j'ai rien eu à changer, donc il y a un travail de relecture orthographique aussi qui est important, donc ça, il y a toujours quand même quelques fautes qui traînent malheureusement, mais dans l'ensemble on ne m'a pas demandé. Mais par exemple j'écris en littérature adulte, et là sur certains ouvrages j'ai eu des conseils d'un éditeur me disant ça serait mieux de refaire le montage de telle ou telle façon, ça aura plus de peps, il faut accrocher, mettre la tension à tel niveau, etc. Et l'avantage de l'auteur, c'est qu'il peut très bien décider de ne pas prendre le conseil, mais il serait stupide de ne pas l'écouter. C'est-à-dire que moi, mon approche, en tous les cas, c'est vraiment d'avoir envie d'écouter, et puis après, bah, je décide, je fais pas, et j'espère à chaque fois faire le bon choix, quoi. Voilà.
Alors justement, quand on s'attelle à une œuvre, là je pense en particulier, dernièrement, il y a Munch, l'incroyable Odyssée, qui est présente d'ailleurs sur ce salon du livre de jeunesse. Comment ça se passe au début? J'imagine qu'il y a une idée, là on voit un peu les secrets de ce qui se passe dans votre cerveau finalement. Ouais. Comment ça se passe? Il y a une idée au démarrage? Alors là, en l'occurrence, c'est une suite d'une autre œuvre.
Oui, là c'était un peu plus facile, parce qu'en fait, l'année dernière, j'ai publié un livre qui a eu un vrai succès, on va dire, donc qui s'appelait La Dernière Course. Et qui est une histoire vraie qui se passait pendant la Première Guerre mondiale. Et il se trouve que l'année dernière, c'était en plus le centenaire de la... Enfin, d'ailleurs, on y est toujours, mais de la Première Guerre mondiale. Et ce livre raconte une histoire totalement méconnue du grand public, et même de beaucoup d'historiens que j'ai pu rencontrer. C'est l'histoire de ces 400 chiens venus d'Alaska et qui ont sauvé énormément de soldats français sur le front des Vosges. Et c'était la première fois que des animaux étaient décorés de la Croix de Guerre pour avoir sauvé autant de soldats. Et je raconte surtout toute la péripétie incroyable. Il faut savoir que 400 chiens, ça représente à peu près la force de deux locomotives en traction. Et c'est une petite poignée d'hommes qui va transporter ces 400 bêtes à demi-sauvages depuis l'Alaska, à travers tout le Canada, de Vancouver à Québec, à travers l'Atlantique sur un bateau, et jusque ensuite à Nantes, après Saint-Dié-des-Vosges, en train. Enfin, c'est un périple totalement fou qui était possible grâce à un homme en particulier, qui était un murmureur, un homme qui murmure aux oreilles des chiens et qui était capable de faire n'importe quoi de ces animaux-là. Et rien que ça, c'est une péripétie phénoménale, en dehors du phénomène de la guerre elle-même. Et donc ce livre ayant eu un grand succès, moi j'avais fait beaucoup de recherches au château de Vincennes sur la partie historique et tout, et j'ai eu la chance de trouver un autre épisode en lien qui s'est déroulé 10 ans plus tard aux États-Unis, où à nouveau des chiens de traîneau ont été sollicités pour sauver une part très importante de la population, puisqu'en fait une région de l'Alaska était atteinte d'une épidémie de diphtérie, et on craignait qu'il se passe la même chose qu'avec la grippe espagnole quelques années plus tôt, c'est-à-dire que en fait l'Alaska est en borderline avec on vient de prendre un coup de fusil dans le dos, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Non, chers auditeurs, restez là, la police est déjà en route. Donc, qui est borderline avec la Russie, avec les États-Unis, le Canada, et donc ça aurait pu très vite dégénérer. Et donc, le gouverneur d'Alaska va devoir imaginer une expédition totalement folle, avec 35 relais de chiens de traîneau, dans une taïga à moins 50, moins 60 degrés, pour essayer d'apporter ce sérum à la ville de Nome. Et il se trouve que le personnage que j'avais dans les dernières courses, une jeune femme qui s'appelait Elisabeth, qui a 16 ans, qui va se déguiser en soldat pour pouvoir vivre toutes ses péripéties avec l'armée française, etc. Eh bien, je l'ai réutilisé dans l'épisode suivant, un peu, je dirais, par facilité, mais surtout par attachement, parce que c'est un personnage vraiment très très fort, qui j'ai mis beaucoup d'épaisseur dans l'écriture. Et voilà comment est né ce deuxième livre. Donc c'est un peu exceptionnel. Et sinon, il faut un fait. Voilà, par exemple, la dernière course, elle est née d'un documentaire que j'ai vu sur Arte un soir très tard, un truc que, à mon avis, très peu de gens avaient dû voir.
Déjà, Arte et très tard la nuit, oui, ça voilà, facilite ça pas.
Enfin, moi, j'aime beaucoup Arte, mais et en l'occurrence, c'est vrai que c'était pas très sexy, alors que j'ai trouvé l'histoire extraordinaire, quoi. Et donc, tout de suite, mon envie d'écrivain, c'était d'en faire quelque chose de plus intéressant pour un grand public.
De plus sexy, du coup, comme sexy, vous disiez. Ouais, exactement. Ouais. Alors, j'entends cette notion de, voilà, il y a de la recherche, de la documentation, de l'information au démarrage. Nous l'évoquions il y a quelques instants avec Frédéric Biel également qui documente énormément avant de passer à la phase écriture. Donc on a la documentation, finalement on a un documentaire. Et comment, au bout d'un moment, le travail se met en place quand on est auteur, en tout cas pour vous en particulier, comment le travail se met en place pour arriver à la fin à une œuvre lisible par tout le monde? Est-ce qu'il y a des processus? Est-ce qu'il y a des étapes, des phases?
Des phases de doute, sûrement. Pour le reste, je crois, malheureusement, j'ai pas de recette. Je sais que j'ai eu un débat dans un salon du polar il y a pas très longtemps à Cognac avec un autre auteur qui disait que certains auteurs expliquaient que quand ils écrivaient un livre, ils n'avaient pas de plan, ils commençaient une histoire et puis qu'elle se déroulait au fur et à mesure. Et ils disaient ça, c'est pas possible, j'y crois pas. Et je suis tout de suite intervenu en disant désolé, copain, mais moi c'est exactement mon cas. C'est-à-dire qu'en fait l'histoire, je la conçois au fur et à mesure.
L'histoire qui se conçoit au fur et à mesure. Parce que ça fait partie des questions en tant que lecteur. Qu'on se pose, on se dit, mais est-ce que l'auteur, là, au moment où il passe par telle et telle phase, il sait où il va arriver, quoi, à la fin?
Eh ben non, pas toujours, non, vraiment pas. Ce qui est très très intéressant dans le processus de création, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est que en fait, en imaginant un personnage, vous vous posez des questions sur ce personnage, vous dites, mais bon, il a forcément des amis, il a forcément une famille, il a forcément une enfance, il va avoir une vieillesse, je ne sais pas. Donc voilà, vous commencez à donner une perspective qui va enrichir un décor, qui va amener d'autres personnages, et ça, c'est merveilleux. Je crois qu'il faut le laisser faire. Et j'aurais presque peur d'ailleurs de le conscientiser, c'est-à-dire de vouloir intellectualiser le phénomène, au risque, un peu comme le mille pattes qui un jour se pose la question de quelle est la première patte que je mets en avant le matin quand je me lève, et qui du coup ne peut plus marcher, parce que c'était un peu idiot de se poser la question. Donc voilà, ça j'y réfléchis pas trop. Mais c'est vrai que dans le documentaire, moi je fais toujours des livres à partir d'histoires vraies, il y a d'abord cette recherche documentaire. Et ça c'est très important, parce que ça aussi ça va nourrir le livre. C'est-à-dire que quand je commence à découvrir, tomber sur les papiers militaires d'un officier, voir les lettres qu'il a écrites ensuite pour prendre sa retraite et demander que sa pension soit... Je commence à me faire une idée de sa psychologie, et là je vais pouvoir aussi nourrir l'écriture qui va venir derrière assez facilement. Je fais de la réalité une fiction, mais je garde 90-95% de la réalité en fait. Et le reste, c'est que de l'habillage pour que ce soit très agréable à lire.
C'est ça, c'est l'habillage de la réalité. Mais le but du jeu, c'est de vraiment être dans la réalité pour vous.
Ah oui,
cas,
de toute façon. Oui, absolument.
Qu'on puisse se dire à la fin de la lecture de l'œuvre, de se dire, bon ben voilà, j'ai appris des choses, notamment là sur l'utilisation exactement des chiens ou autre.
Je vais vous donner un exemple très bête, mais un livre adulte que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps, enfin, c'était en 2012 ou 13. J'ai eu 3 ans de travail d'enquête et presque 1 an d'écriture dessus. C'est 4 ans pour écrire un livre, et qui ne va pas forcément se vendre non plus à des millions d'exemplaires. Donc il faut accepter cet investissement-là, et parfois l'enquête peut être beaucoup plus longue que le seul travail d'écriture.
Il y a quand même une notion d'enrichissement personnel, j'imagine que c'est pour le plaisir qu'on va enquêter au bout d'un moment, enfin pour en savoir plus.
Ah ouais, mais c'est un vrai bonheur.
Enfin, j'ose imaginer en tout cas que ça peut se passer comme ça.
Oui, oui. Vous savez, je voyage énormément dans le monde entier, et je crois qu'à chaque fois que je prépare un voyage moi-même, je suis déjà dans le voyage. La préparation du voyage, c'est le voyage. Et c'est pareil pour un livre, c'est-à-dire que dès que vous êtes dans la documentation, bah, vous êtes déjà dans le voyage que va être cette écriture et ensuite la lecture.
Quelle importance ça a pour vous de rencontrer les lecteurs ou les futurs lecteurs à l'occasion d'un salon comme aujourd'hui? Est-ce que ça a une importance?
La première importance, c'est que ça m'évite de nourrir trop ma névrose. C'est-à-dire que pour écrire beaucoup, il faut être un peu névrosé, évidemment. Et moi, c'est vrai que je vis dans un tout petit appartement à Paris où j'écris dans une minuscule pièce et que je suis enfermé tout le temps. Donc le fait de sortir de cet environnement est très important. Et puis surtout d'avoir un feedback, de voir tout à l'heure, j'ai rencontré une prof que j'avais vue il y a il y a 2 ans ou 3 ans, quand j'étais venu à Évreux pour rencontrer les classes, etc., et qui me disait, vous savez, mes élèves continuent de me parler de vous, etc., et puis ils m'ont demandé de faire de la calligraphie, parce que bon, j'aurais montré un peu la calligraphie chinoise, etc., et la pauvre était obligée de faire des recherches en calligraphie, tout ça, c'est assez rigolo. Mais je veux dire, pour moi, c'est un retour de reconnaissance qui est quand même utile, parce que dans tous les métiers, on a besoin d'un peu de reconnaissance, et voilà, le plaisir des lecteurs, c'est la reconnaissance qu'on peut avoir.
Très bien, merci beaucoup à vous, Pascal Vatinel, d'être passé par nos micros.
C'est un plaisir.
Et puis je ne vous cache pas que vous m'avez donné envie d'aller jeter un œil du côté de, d'abord, la dernière course, parce qu'on va essayer de les prendre dans l'ordre, et ensuite, Munch, l'incroyable Odyssée.
Je vous attends, et j'ai mon fusil qui est prêt si vous ne venez pas, donc à bientôt et continuez bien.
Très bien, merci beaucoup à vous. Monsieur Pignon, je vous propose une pause musicale et nous revenons juste après. Shadows Band avec le titre Aphasia, programmé. Encore une très bonne sélection de notre ami Monsieur Pignon.
T'es pas en classe verte, toi ? Ça semble bien que c'était toi, hein ? Avec ton vieil accent de chanteur de rap, là, hip-hop. Et cette manie que tu as de cacher partout comme en Lara. C'est excessivement énervant.
Le mix et culture, principe actif, 102.4 FM.
Bon d'accord, nous ferons attention que personne ne crache par terre, on voit bien que ça défrise notre ami Pignon. Nous sommes toujours en direct de ce 6e salon du livre de jeunesse. Vous pouvez encore nous rejoindre jusqu'à 18h, où nous rencontrons auteurs, illustrateurs, dessinateurs, éditeurs, animations, spectacles. Enfin voilà, un bon dimanche sous vos applaudissements, j'aurais envie de vous dire. Mais je crois que c'est sous copyright ça. Je vous propose tout de suite que nous retrouvions un échange tourné par Damien hier, à savoir la rencontre de Zahu, qui était premier illustrateur de l'école des loisirs en 1967. C'est pour vous dire que le monsieur est dans le circuit depuis un bon moment. Il nous parlera également des relations entre éditeur et auteur.
Merci beaucoup, monsieur. Donc, Zahu, hein, votre prénom, voilà. Ou votre nom d'artiste, devrais-je dire.
C'est un pseudonyme.
C'est un pseudo. Voilà. Alors... vous êtes ici en train de présenter bon nombre d'ouvrages sur les, que vous avez illustrés. A priori, même, il était assez, assez riche et dense, votre présentoir, si je peux me permettre.
J'ai été très étonné qu'il y ait autant de mes livres, hein, parce que la librairie Oiseau Lire, que j'ai déjà rencontré d'autres fois, pas ici, mais pour d'autres trucs, aime bien montrer un peu tout le travail des auteurs que des illustrateurs. Donc il y en a beaucoup.
Et je peux me permettre de vous dire que c'est même d'ailleurs elle qui a appuyé le fait que je vienne vers vous, parce qu'à priori elle aime aussi vos productions. Voilà. Zahu, je suis obligé de vous poser la question, pardonnez-moi, je ne vous connaissais pas préalablement. Plus que pourquoi le dessin enfant, est-ce que vous êtes toujours, avez-vous été toujours dans cette profession, ou est-ce que, comme vous me laissez entendre, ça n'a pas toujours été le cas ?
Non, moi j'ai passé toute ma vie à dessiner, hein, c'est mon travail de dessin depuis plus de 50 ans. Hein, j'ai fait un premier bouquin, bizarrement, pour l'école des loisirs, qui était le premier livre de l'école des loisirs, qui est sorti en 1967. Hein, ça fait un bail.
C'était pas hier.
Ouais, c'est pas hier, que j'avais fait au service militaire. Mais il n'est pas dans la liste de l'école des loisirs, parce que c'était avant que Arthur Schmidt, directeur de création de l'école des loisirs, ne rentre. Hein. Avant de Tominger.
Donc déjà, c'était une opportunité, c'était une rencontre qui vous avait fait faire ça, c'est...
Non, parce que je l'avais fait pour moi avec un copain avant le service militaire, et puis un copain, Philippe Drouillet, je ne sais pas si vous avez dit quelque chose, un homme qui a fait un truc dans la BD pendant longtemps. Il démarrait, lui, à Pilote. Il m'a dit, mais tu devrais aller voir des gens à l'école des loisirs qui démarrent. C'était un éditeur d'école avant, hein, scolaire. Donc j'ai été le voir, et puis ils l'ont pris. Donc ça a été mon premier livre. Mais comme j'ai vite été marié avec un enfant, puis après deux autres, je suis rentré dans la pub. J'ai dessiné pendant une bonne vingtaine d'années, si ce n'est plus, pour les agences de pub, en freelance. Des roughs, des storyboards, tout ça. Donc j'ai dessiné.
Oui, donc on entend bien le dessin au-delà de votre profession, ça a toujours été une passion, un amour, votre pratique.
Voilà, puis mon métier, la façon de gagner de l'argent aussi. Et puis petit à petit, j'ai été contacté par quelqu'un que j'avais rencontré pour Bayard, pour Astrapi, pour J'aime lire, tout ça. Donc j'ai commencé à faire des trucs pour les jeunes, comme ça, mais presque pour me distraire. Vous voyez, c'était
par loisir presque, oui.
Voilà, pour le plaisir, quoi. Parce qu'il y avait un zéro en moins que dans la pub.
Les montants, on imagine.
Et puis petit à petit, ça a pris de l'importance. Et la pub, par contre, en a perdu. Donc j'ai glissé ça doucement, mais gentiment, vers l'édition. Et dans les années 90, j'étais vraiment dans l'édition. Quoi.
Alors vous avez vu comment ça se passe dans ce milieu-là ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec les mêmes auteurs ? Est-ce que ce sont des auteurs indépendants qui viennent vers vous ? Ou est-ce que vous, avec cette expérience, vous allez vers certains auteurs avec qui vous avez envie de travailler ?
Non, tout ce que vous avez dit est bon. Alors, moi je travaille beaucoup avec Rue du Monde, qui est un éditeur, une petite maison, hein, qui va avoir 20 ans en 2016, qui a démarré en 1996. J'ai travaillé que depuis le début, j'ai dû faire une trentaine de bouquins avec eux. Donc j'aime bien travailler avec eux, c'est mon drapeau, on va dire. Et puis je fais quelques bouquins ailleurs avec d'autres éditeurs, comme ça par-ci.
Oui, il n'y a pas de contrat d'exclusivité dans le milieu alors ?
Non, ils ne peuvent pas se permettre ça.
D'accord. C'est
pas,
tant mieux.
Tant mieux. Donc j'ai fait un bouquin avec Rue du Monde quand même, mais avec Hubert Benkemoun.
Qui est juste à côté de vous d'ailleurs.
Voilà. Ouais. Là, c'est moi qui l'ai enclenché parce que c'était un bouquin particulier. C'était un espèce de projet pour que les gamins, les ados des collèges qui lisent que des BD. Ça ressemble à une BD, mais c'est pas une BD parce qu'en fait, il n'y a pas de bulles. Et le texte est un roman. Hein, c'est un petit roman, mais il y a...
Donc, oui, on le voit, alors là j'ai sous les yeux, hein, c'est très clair, ça prend une bonne partie de la page, les illustrations, mais à côté de ça, les écrits sont notifiés effectivement sous forme de roman. Effectivement.
Voilà. Donc c'est un peu une espèce de challenge que je me suis fait, j'aimerais bien que les gamins de collège qui lisent que des BD arrivent à lire.
Alors ils y viennent peut-être parfois un peu plus tard. Mais c'est vrai que là vous pouvez. C'est une accroche.
Alors je me retrouve à faire un bouquin qui est entre deux cases. Il est entre la jeunesse et entre la BD.
Alors moi j'arrive pas du tout à imaginer ce que, comme dans le cinéma, il y a un gros travail en amont et puis ensuite on délègue, on donne des orientations. Ou est-ce que par exemple avec certains auteurs, vous prenez leurs écrits, voilà, et puis à partir de là vous l'imagez, vous l'illustrez. Ou est-ce que là encore, il n'y a pas de règle dans la matière, c'est vraiment au cas par cas.
Je dirais qu'en gros, il n'y a pas de règle, mais malgré tout, il y a une généralité. En général, en jeunesse, c'est très différent de la BD. On ne travaille pas ensemble, les auteurs et les illustrateurs. Le texte, il est validé par l'éditeur.
Préalablement.
Une fois qu'il est validé, l'illustrateur interprète ce texte. Mais il ne demande pas à l'auteur. Celui-là, c'est différent parce que c'est moi qui ai
impulsé la.
Mais c'est pareil, j'ai demandé à Hubert de me faire un texte. Une fois que j'ai eu le texte, qui était d'accord, je lui ai pas demandé son avis après. J'ai fait tout le bouquin sans lui. Quoi. Et puis j'ai montré là, une fois que c'était fini. Quoi. Là. Mais en édition de jeunesse, les auteurs, moi j'ai fait des bouquins sans connaître l'auteur. Hein. C'est l'éditeur en général. Hein. En général, c'est l'éditeur qui choisit l'illustrateur. Donc il y a un auteur qui écrit, qui envoie à un éditeur. Si ça marche, hein, pas tous les coups, si ça marche, c'est lui qui choisit l'illustrateur en général. Après, il y a plein de cas d'exception.
Et du coup, une fois que vous avez produit ces illustrations, est-ce qu'il y a un retour? Est-ce qu'on retouche parfois? Ou est-ce que non, quand même, à un moment donné,
L'auteur n'a pas son mot à dire par rapport aux illustrations, théoriquement.
D'accord.
Lui, il est auteur du texte, mais l'illustrateur, il est interprète du texte. Il a toute liberté par rapport à ce texte. Mais c'est comme on a fait Charles Perrault ou La Fontaine, ça. On ne va pas demander à Charles Perrault, à La Fontaine,
bien sûr.
Hein. Donc ça part de ce principe. On est payé autant l'un que l'autre, hein, de l'auteur et l'illustrateur, mais on est responsable autant l'un que l'autre. L'illustrateur n'est pas subordonné à l'auteur.
J'entends bien.
Hein, c'est très clair.
Alors, Zahus, ce qui est très chouette, c'est qu'on imagine, vous, qui avez en plus ce parcours dans la publicité, qui est un monde très particulier. Hein, on a des idées et une approche un peu
clients,
de la chose.
Des clients, surtout.
Voilà. Là, aujourd'hui, quand même, enfin, donc maintenant, depuis de nombreuses années, mais quand on vous retrouve aujourd'hui, donc, comme ça, dans des salons où on croise son public, ou des gens qui découvrent vos œuvres, et des sourires de bambins, de jeunes enfants, ça doit être extrêmement gratifiant au niveau échange et au niveau rencontre.
Oui, moi j'aime beaucoup, j'en fais pas mal, hein. J'en fais entre 15 et 20 par an quand même, des salons.
Tout de même.
Mais en général, ce qui ne s'est pas fait ce coup-ci, mais en général, je rencontre des écoles avant, le jeudi, le vendredi, et j'aime bien faire des ateliers avec eux, plutôt des CM1, CM2, c'est pas des tout petits, hein. Je suis plutôt à un niveau juste avant
les grands primaires. Ouais.
Voilà, un cycle 3 pour
cycle
parler.
Cycle 3, oui, c'est ça.
Ouais. Et j'aime bien faire un atelier avec eux. Donc c'est des rencontres qui durent 2 heures, 2 heures et demie. Pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, ils posent des questions. Hein, questions-réponses, je réponds à toutes les questions qu'ils veulent bien poser, qu'ils ont préparées ou pas. Et après, on fait un atelier ensemble. Je les fais dessiner ensemble, tous ensemble. On fait une fresque, on ne fait pas une histoire, on fait une fresque. Ils sont debout de chaque côté d'un rouleau de papier qu'on a déroulé comme ça, comme un train. Et ils sont debout de chaque côté, face à face, et côte à côte. Hein, ouais. Et c'est moi qui fais une dictée. Je dis, c'est des consignes les unes après les autres. Là, vous faites ça. Ils n'ont pas le droit d'empiéter sur le voisin. Il n'y a pas de séparation. Ils n'ont pas le droit d'aller chez le voisin. Et après, ça réunit tous les dessins ensemble. Et c'est toujours très beau. Ça, au pinceau, langue de Chine. Ça me fascine parce que c'est toujours différent, mais c'est toujours magique, le résultat. Ça dure 1 heure. Hein. C'est vraiment... Il y a une production.
Et les productions arrivent à être très riches. Ouais.
Voilà. Après, moi, je leur fais quelques dessins, ça pour la classe, des grands dessins d'angle Chine. Bon, c'est comme ceux qui sont derrière moi à table. Hein. Mais j'aime bien parce que, vous voyez, moi, quand je dessine pour moi. Mais c'est important de rester très en phase avec ce public très jeune, hein, finalement. Hein. Et moi, je ne fais pas des bouquins faciles. Hein. Je ne fais pas des bouquins, c'est pas des petits lapins, c'est pas des petits nounours. Voilà. Donc, ça a besoin de passer par des gens, ou des libraires, ou des instituts, ou des médiathèques, ou des parents qui craquent là-dessus parce que le sujet est important. C'est souvent des bouquins sur la différence, sur le racisme, sur l'autre.
Sur l'être, en tout cas.
Voilà, ça va. Même la cuisine, qui était un bouquin...
Cuisine grande comme le monde.
Ouais, c'est sur toutes les cuisines du monde, quoi.
Donc,
c'était un bouquin de voyage, hein, plus que... Hein. Mais c'est le rapport aux autres aussi, hein, au travers de la cuisine. Hein, voilà. Ça marche bien aussi, surtout avec des adultes, moi je dessine pour moi au départ, hein, mais c'est intéressant que ça fonctionne, de garder le réel, hein, parce qu'en ce moment on passe beaucoup au virtuel, de garder le rapport au réel, parce que on peut arriver à se dire qu'on n'a plus besoin d'eux, quoi, ce qui n'est pas tout à fait vrai.
Sûrement.
Je pense qu'il faut garder un pied...
Et alors, moi, j'ai besoin de vous poser une question, une petite anecdote peut-être. Quand on est, voilà, avec un tel amour du dessin, un tel talent, parce que ça saute aux yeux, est-ce qu'on devient aussi, pour toute sa famille, les membres proches ou les copains, celui qui fait tous les carnets d'invitation, toutes les illustrations d'invitations d'anniversaire ou autre? Ou non, vraiment, ça reste quand même quelque chose de très professionnel, vous disiez, vous dessinez pour vous. Ou est-ce que, à l'inverse, peut-être, vous pratiquez aussi autour de la peinture, d'autres supports auxquels vous exprimez?
Moi, je fais plutôt du dessin sur papier. Alors, ça peut être l'angle de Chine, ça peut être du pastel gras, du pastel sec, mais toujours sur du papier. L'histoire des cartes d'invitation, des machins, j'en ai fait quelques-uns dans ma vie, mais c'est pas, on me fait pas chier là-dessus, malgré ma nombreuse famille. Je vis avec une autre personne que celle que la mère de mes enfants, qui a elle aussi des enfants et des petits-enfants. Je pense que je suis un personnage qui dessine comme ça, mais ça les excite pas plus que ça. J'ai des fois des rapports beaucoup plus forts avec des gamins que je croise dans une classe qu'avec ces gamins qui viennent à la campagne chez moi manger à la maison, tout ça. Mais le dessin pour eux est un autre truc, c'est pas...
Hein. C'est, l'appropriation c'est, est voilà, très c'est, subjective, bien
oui,
sûr.
Oui, c'est très particulier. Je me dis, c'est bizarre, je ne suis pas leur grand-père d'une part, mais même avec mes petits-enfants qui ont 20 ans maintenant, je me dis, je n'ai jamais été très branché famille, alors qu'avec les gamins que je croise, comme ça marche très très bien.
Peut-être que nous pouvons imaginer le fait que faut parfois des rencontres pour le vivre que ça déclenche ça chez l'enfant, chez l'être, ou à l'inverse, que ce soit une éducation aussi.
Aussi, mais c'est vrai que on s'aperçoit aussi que maintenant, cette génération-là qui ont déjà eu des parents qui étaient branchés ordinateurs,
c'est très numérique. Ouais.
Le livre n'est des fois plus la question. Quoi. Le livre, ça reste un truc qui ne concerne pas tout le monde.
Hein. Alors, on peut la décrier, l'éducation nationale, l'école d'aujourd'hui, mais il est vrai que pour le vivre, elle maintient tout de même, elle entretient encore le livre, la lecture, les apports bénéfiques que cela amène.
Ouais. Beaucoup plus que les parents. Hein.
Presque.
Parce que les parents, ils sont plus à trouver des DVD ou des
trucs. Ou un dessin animé, bien sûr.
Des dessins animés, ça. L'école fait encore un travail, pas tous, hein. Pareil. En tous, ils sont 500 000. Tous ceux que je rencontre, j'ai la chance de rencontrer ceux que ça passionne. Tu peux faire attendre.
On va vous libérer, oui. Des dédicaces à souhaiter, on va y aller, ça a eu quand même.
Mais bon, ils ne sont pas tous non plus fantastiques. Mais ceux que je rencontre, c'est qu'ils sont concernés par ça. Donc, ça marche très bien.
Vous êtes encore là dimanche?
Demain.
Super, Zahu, parce que ça risque de diffuser demain. Zahu, vous avez la possibilité de le rencontrer. Il est talentueux, il est sympa, il aime son métier. Venez le croiser. Il est en bas, hein, bien sûr, au rez-de-chaussée de cet espace qu'est le cadran. Zahu, mille merci. C'était un grand plaisir de vous rencontrer et de vous découvrir. Merci beaucoup.
Au revoir.
Voilà, Zahu au micro de notre ami Damien. Je vous propose qu'on écoute tout de suite un reportage tourné par Enola et Damien, notamment un papa et sa fille à leur micro.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Voulez-vous vous présenter?
Alors, je m'appelle Philippe Vallard. Voilà.
Et toi, ma puce?
Louise Vallard. Pourquoi vous êtes ici?
Pour voir des auteurs et acheter des livres.
Vous aussi, monsieur, l'accompagnement.
Voilà, c'est ça, oui, parce que finalement, ils font les dévoreurs de livres à l'école et ils rencontrent des illustrateurs. Et donc, voilà, c'est toujours un bon moyen de se faire dédicacer des livres.
Du coup, t'es dans quelle école, toi, ma grande?
Puy-Carré.
Puy-Carré, très bien. Pardon.
Depuis quand venez-vous?
Depuis le début, en fait. La première année, c'était sous tente en face de la mairie. Et depuis, on vient systématiquement, vu que là, c'est plus grand et c'est toujours un bon moment.
Venez-vous par plaisir?
Oui, tout à fait, oui, on aime bien lire, on va dans les différentes librairies d'Évreux et voilà, on rencontre les auteurs, c'est agréable.
Vous avez des coups de cœur?
Là, c'est plus ma fille qui pourra répondre.
C'est pour Espion de famille, j'ai les 4 tomes et je m'en suis fait dédicacer un.
Ah, c'est super ça. Et du coup, on se posait la question avec Nola. L'apport de la lecture, pour toi, ma puce, c'est pour le rêve, c'est pour l'imaginaire, c'est pour le vocabulaire. La lecture, qu'est-ce que pour toi cela t'apporte? Du plaisir, peut-être, tout simplement. Ouais. C'est, on s'évade. Vous, monsieur, c'est...
Voilà, c'est ça, c'est un peu tout ce que vous avez dit. Hein. C'est une ouverture sur l'extérieur, c'est le plaisir de rencontrer des auteurs, de faire des découvertes. Et puis
de rentrer avec des ouvrages dédicacés, parce
voilà,
c'est ça, cool.
Oui, voilà, ouais.
Et le porte-monnaie, ça va? Il y a un budget ou c'est au coup de cœur, au feeling?
Mais on n'est pas trop limité, c'est un chacun. Et puis voilà, quoi, ils ont la chance de pouvoir aller à la médiathèque aussi, donc il y a un gros stock. Et puis on achète de temps en temps des ouvrages, évidemment.
Eh bien, merci beaucoup, messieurs, dames. Merci, Nola.
Merci.
De rien, merci.
Au revoir, bon après-midi.
Au revoir, bon après-midi. Au revoir.
Voilà, c'était des personnes qui étaient sur ce salon du livre de jeunesse, au micro de Damien et d'Enola. Nous poursuivons et nous rencontrons maintenant Carole Chay et Cécile Roumiguière. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes auteure et illustratrice. Vous avez travaillé ensemble notamment sur Une princesse au palais. Et dans les échanges que nous allons avoir, j'aurais bien aimé savoir comment se passe la relation entre l'auteur et l'illustratrice. Est-ce que c'est un travail dès la conception qui s'est fait ensemble, notamment sur Une princesse au palais, où c'est par la suite que vos travaux se sont croisés? Comment s'est mis en place cet album?
Alors, Une princesse au palais, c'est une expérience un petit peu, une aventure, je dirais, unique, et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Carole. Notre histoire est très atypique, donc ce qu'on va vous raconter sur le rapport illustrateur-auteur, je pense que
il y a que
c'est
nous,
assez
en
rare.
Il n'y a pas que nous, mais
c'est assez rare. En général,
c'est rare en fait, c'est pas la majorité en fait par rapport à l'édition jeunesse.
En général, un auteur écrit un texte, il l'envoie à un éditeur et l'éditeur fait un duo avec un illustrateur ou une illustratrice. Pour Une princesse au palais, là je vais laisser la parole à Carole puisque c'était sur son terrain, c'était dans la ville de Reims. Il était une fois dans la ville de Reims.
Et en fait, non, mais pour rebondir et répondre encore plus directement par rapport à votre question, c'est qu'il n'y avait pas d'envie de travailler ensemble. Moi, je ne connaissais pas les textes de Cécile. On se retrouve sur un salon du livre, en effet à Reims. Enfin, exactement à Cormontreuil, à côté de Reims. Et on se retrouve dans cette ville. Je suis née à Reims et il y a un endroit en fait, que j'adorais petite, que j'ai adoré et que j'adore toujours, c'est le Café du Palais. Donc le Café du Palais existe vraiment. Et c'est un lieu assez, assez étonnant, puisque c'est un lieu où il y a c'est la caverne d'Ali Baba. Il y a des choses au plafond, au mur, il y a des tableaux, des sculptures. Le patron est un fou furieux de jazz et un collectionneur d'art, mais de boîtes de chaussures jusqu'aux tableaux très prestigieux. Et quand j'ai rencontré donc Cécile un midi, elle parlait beaucoup plus que moi, et ça m'intriguait. Ça m'intriguait vraiment.
C'est une performance.
Et c'est un défi. Et du coup, j'ai eu envie en fait, de creuser un peu plus. Et encore une fois, vraiment, je ne connaissais pas vraiment ce qu'elle faisait. Et, parce que je ne lis pas, en fait, moi, trop. C'était ça le point de départ. Et le soir, je les ai emmenés, la troupe d'illustrateurs-auteurs, dans ce café. Et j'ai raconté que ma grand-mère m'y emmenait petite. Et Cécile, le lendemain matin, m'a dit « Mais attends, tu devrais écrire cette histoire. » Et moi, je lui ai dit « Mais non, moi, je n'écris pas en ce moment. Mais toi, si tu veux, écris-la, en fait. » Et à partir de ce moment, a commencé cette complicité en aller-retour par rapport... Et on a créé... En fait, on est co-auteur de cet album. C'est ce qu'on souvent dit, parce que c'est la vérité, en fait.
Oui, on peut même dire qu'on est co-auteur de tous les albums qu'on fait,
exactement.
Tous les projets.
Oui.
D'ailleurs, le mot de co-auteur est important parce que je trouve, en album, quand un album est réussi, le mot illustrateur, pour moi, ne convient pas vraiment. C'est un joli mot, mais dedans, il peut y avoir une petite nuance un peu d'illustrer dans le style faire joli. Et pour moi, un illustrateur, il ne fait pas joli du tout. Il se peut qu'à l'arrivée ce soit joli, mais ça c'est autre chose. Mais il est co-auteur de l'album avec moi. Moi je confie une histoire à un illustrateur. Bon, alors avec Carole c'est spécial parce que l'histoire elle germe au fur et à mesure à deux dès le départ. Et quand je confie un texte déjà fini à un illustrateur ou une illustratrice, pour moi je le confie à un autre auteur qui va me donner sa vision, son univers, sa façon de voir l'histoire, et il se trouve que les deux vont se compléter, enfin pas se compléter, vont se tresser pour créer un album qui est ni mon histoire ni celle de l'auteur, mais un album qui vit à lui tout seul.
Notamment à travers, alors j'ai feuilleté Une princesse au palais, et j'ai eu la sensation que le texte aussi, il y avait un travail graphique sur le texte, en fait il n'est pas dans un coin on a les colonnes de texte et puis de l'autre côté l'illustration, les deux viennent s'alimenter mutuellement.
Exactement, c'est la
complicité. C'est parce que vous avez travaillé ensemble, j'imagine. Alors, que c'est plus simple, non?
Non,
on a pris un troisième.
Oui, on a pris un troisième, et puis on a pris un quatrième. Parce que après en fait la complicité, La relation qu'on peut avoir avec un auteur, elle peut être importante, elle peut être riche, elle peut être à nombreuses reprises et évolutive. Mais après, il y a un éditeur qui est là et qui chapeaute, parce qu'on n'est pas éditrice en fait. On pourrait à la limite s'éditer, mais ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est d'être édité, d'avoir un regard. Donc le troisième, en fait, c'est l'éditeur, en l'occurrence l'éditrice, puisque c'était Angèle Cambournac de chez Manier. Et le quatrième, c'est le graphiste. C'est par rapport à la cuisine, en fait, la bonne recette entre le texte et les images. C'est Célestin, en fait, qui a pu, en fait, s'en emparer. Et d'une certaine façon, c'est aussi un co-auteur. Et il a créé avec lui, en fait, sa mise en page, une autre ambiance, son regard, en fait, sur La princesse au palais.
J'ai la sensation, dans ce que vous dites, qu'il y a une invitation à travailler avec vous. Enfin, vous insistez sur l'éditeur, vous insistez sur la personne qui remet en
évidemment. Ça aussi, c'est pas évident dans le monde de l'édition.
Mais il y a un côté vraiment invitation à travailler avec vous.
C'est parce qu'en fait, je pense que, et c'est là où on se retrouve aussi, si on est aussi complice, c'est quand même qu'on a des valeurs communes assez fortes. Une des premières, c'est la valeur du collectif. Autant un auteur peut être seul, un écrivain peut être seul devant sa page, etc. Mais à un moment, ce texte qu'il peut faire tout seul dans sa chaumière, il va falloir qu'il arrive vers le lecteur. Et là, commence une grande chaîne, une grande aventure, quelque chose qui se passe à plusieurs, forcément à plusieurs. Donc d'où cette idée de collectif qui est là partager le monde d'auteur avec l'éditeur, avec tout le travail éditorial qui est autour, avec Célestin le graphiste. Et chaque projet, on a envie effectivement qu'il y ait des bulles comme ça de personnes qui viennent mettre leur grain de sel, et c'est là où c'est à mon avis réussi. Et puis c'est ça qui est intéressant, c'est l'aventure humaine aussi.
Mais c'est rigolo parce que c'est la première fois en fait qu'on nous pose cette question comme ça. C'est marrant parce que c'est super intéressant l'invitation, parce qu'elle n'est pas aussi, elle n'est pas forcément évidente, parce qu'on peut faire peur, enfin on peut dérouter, parce que quand on arrive comme ça toutes les deux en force, en bloc, on peut dire mais nous on n'a pas notre place en fait, parce qu'elles sont peut-être un peu là, elles parlent assez facilement, elles ont déjà de la bouteille en fait derrière, une expérience.
Tout fait un lien, ça part du bar du palais. Ça pourrait être une princesse du
c'est
bar
ça,
du palais, non
rumeurs,
c'est l'édition ivresse en fait. C'est n'importe quoi. Non, mais j'aime bien ça parce que alors en plus cette radio elle est associative. Hein,
oui.
Donc ça tombe bien en fait. Du coup l'invitation est qu'on en parle ici du coup. Et parce que ça nous intéresse, ça c'est en effet c'est les valeurs qu'on a en fait. Et le livre nous suffit pas s'il est juste. Alors, évidemment, si on peut gagner un peu d'argent avec, ça tombe bien et c'est notre métier. Mais ça va au-delà, comme le dit Cécile. Donc, c'est pour ça qu'on fait des expos, c'est pour ça qu'on fait des performances, c'est pour ça qu'hier, on a fait une lecture, dessiné d'autres textes que je n'ai pas illustrés, des textes de Cécile, des textes d'autres. Enfin, voilà, le partage, il est important dans notre façon de vivre nos histoires, en fait, tout simplement. De vivre nos vies, en fait.
Sachant qu'un objet livre est fait aussi pour être partagé.
Bien sûr, sans nous.
Ça va jusqu'au... Oui, sans nous, du coup. Oui, sans vous, complètement.
Oui, on n'est pas derrière tous nos lecteurs, en fait. Ils ne nous supporteraient pas.
Justement, c'est important pour vous de croiser les lecteurs à l'occasion de salons. Enfin, quelle importance ça a ? J'imagine que ça en a par rapport à ce que vous dites déjà depuis le début. Là. C'est quelle importance ça a pour vous de croiser des lecteurs ou de futurs lecteurs et d'échanger avec eux ?
Alors, c'est très important parce que ça rend concret quelque chose. Ça rend concret l'arrivée du livre et de l'histoire qu'on a voulu créer. Après, il y a des moments où on a besoin d'être... pour le coup, en retrait du lecteur. Enfin, moi, c'est un peu ambivalent comme... parfois, j'ai vraiment envie d'être près des enfants quand j'écris pour les enfants, des adolescents quand c'est des adolescents. Et puis, de temps en temps, il faut que je me prenne du recul parce que, je veux dire, un des rôles quand même de l'écrivain ou de l'artiste, quel qu'il soit, c'est aussi de prendre du recul pour pouvoir donner son propre regard sur les choses. J'ai pas envie d'écrire comme un enfant. Je me mets pas à la place de l'enfant parce que je ne suis plus une enfant. Et sinon ça se saurait, quoique parfois, mais bon, et voilà, et donc ça c'est important d'avoir ce double mouvement, aller vers le lecteur et de temps en temps prendre du recul, du retrait.
Mais alors moi je vais pas vers le lecteur, c'est les gens en fait, c'est un lecteur oui, mais c'est le public en fait, je vais vers le public, et j'aime, enfin... C'est pas jouer sur les mots, mais c'est important parce que du coup, ça peut être aussi avec les yeux, juste avec les yeux, ça peut être juste avec les oreilles, en fait, l'échange. Et c'est pour ça que les salons, en fait, on est pas mal actifs sur les salons, le terrain nous intéresse, enfin, le public nous fait pas peur, les gens nous font pas peur, en fait, et au contraire, c'est... hier, par exemple, il y avait des grands silences à un moment donné quand on faisait cette lecture dessinée, pendant 40-45 minutes, et si le public est pas derrière, si on sent pas le public nous écoutant, nous regardant, enfin là, pour le coup, on loupe quelque chose. Et pareil, si les gens sont pas derrière nos livres, il faut quand même avoir du monde en fait autour de nos livres, c'est sûr, enfin un peu de monde.
Beaucoup.
Beaucoup de monde.
C'est d'ailleurs plus dans un esprit de parc. Enfin, en tout cas, ce que je sous-entends dans ce que vous dites, c'est pas forcément en lien avec l'activité professionnelle ou la rentabilité ou autre.
C'est,
je sens que c'est à travers votre nature qu'il faut...
C'est un acte citoyen, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. Ça fait partie les sujets qu'on aborde. De toute façon, parler des règles dans un album d'une petite fille, qui grandit, c'est pas en première lecture, mais ça arrive en fait dans l'histoire. C'est pas si courant en fait, mais c'est la vie de tous les jours. C'est ce qui nous nourrit. Alors là, pour le coup, aussi bien Cécile que moi, on a c'est nos valeurs, mais les sujets. Bizarrement, il n'y a pas de poney rose en fait dans ce qu'on fait. Mais on n'a rien contre.
On pourrait les manger, je sais pas.
Les manger.
Un steak tartare, c'est vrai qu'on en a un peu parlé il y a deux jours.
Je crois que ça a déjà été fait. Il faut voir Thierry Magnier, je crois qu'il y a déjà...
Il y a déjà des histoires de poney à manger ?
Qu'on mange, oui.
Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'on en a décalé.
Il n'y a qu'un qui pouvait le faire, il l'a fait.
Du coup, on sent bien là, à travers les échanges que votre binôme fonctionne bien. Est-ce que c'est dans l'optique de retravailler ensemble, en exclusivité, ou au contraire, besoin de se nourrir de d'autres personnes pour travailler ?
Alors, exclusivité, ce serait difficile parce que je pense qu'on deviendrait vite un peu... Elle a beaucoup d'idées, moi aussi, donc du coup, ça fait... c'est un peu... Hein, ça serait la jungle. Et puis, j'écris plus vite que ce qu'elle dessine, donc voilà... Mais par contre, c'est vrai que, enfin, moi, je ressens depuis Une princesse au palais le besoin d'avoir toujours un projet, au moins en cours avec Carole. Donc là, on a effectivement un projet. On a lu hier un inédit qui est un embryon de ce projet, un projet de bande dessinée. Donc, il va s'appeler L'Aube verte. Et ça va nous prendre un certain temps parce que c'est un gros dossier. Et voilà, c'est important, oui, d'avoir toujours un projet en cours.
Et puis, alors là, pour le coup, c'est aussi parce que. Alors moi je travaille, mais tout comme Cécile travaille avec d'autres illustrateurs, mais c'est aussi c'est important en fait aussi d'aller voir ailleurs ou qu'on vienne nous chercher, mais avec toujours quand même si la complicité la plus forte évidemment, c'est avec Cécile en fait, par rapport moi aussi. Je pourrais dire exactement la même chose. J'ai toujours besoin ou envie d'avoir un... d'avoir un projet avec Cécile. Ça me rassure un peu, en fait. Mais avec les autres, parce que comme ça, en effet, on se fait des pauses de nous, en fait, aussi. Parce qu'elle est insupportable, quand même. Enfin, c'est faux.
Je vous en parle pas.
C'est quand même super vrai. T'es quand même insupportable.
Est-ce que je dis que tu travailles en couche, tout ça ? Non.
En superposition.
Ah, pardon.
Eh bien, merci beaucoup à vous, Carole Chey et Cécile Roumiguer, d'avoir partagé ce moment avec nous.
Merci, au revoir.
Monsieur Pignon, juste avant de sortir avec un générique, je vous propose qu'on écoute une dernière parole de personnes qui étaient dans ces couloirs de ce salon du livre de jeunesse. Et là, je vous laisse le choix.
Pourquoi êtes-vous ici ?
Bien, pour voir deux classes de mon école qui ont participé à un projet sur le poème. Voilà, qui vont intervenir d'ici quelques minutes. Et puis pour voir évidemment les livres qu'on peut proposer sur le salon.
Depuis quand venez-vous ?
Oh, depuis de nombreuses années. Depuis que je suis enseignante, depuis 18 ans.
Venez-vous pour plaisir ou venez-vous pour rencontrer des auteurs?
Les deux. Là, j'ai rencontré un auteur pour ma fille qui a acheté une bande dessinée.
C'est lequel?
Amandine, la série Mistinguette.
Vous avez des coups de cœur?
Oh, pas des coups de cœur, j'en vois plein. Alors oui, j'ai plein de petits coups de cœur. Ouais, je fais le tour, je suis venue ce matin, je reviens justement pour me décider.
Ok, merci.
Bah, merci à toi.
Eh bien, nous étions en direct, en live et en public de ce 6e salon du livre de jeunesse d'Evreux. C'était au Cadran. Vous pouvez encore venir vous y promener jusqu'à 18h sans aucun problème. Nous avons, durant cette émission, croisé la bibliothèque sonore d'Evreux, les donneurs de voix. Nous avons échangé avec Fanny Ducassé, Frédéric Biel, Pascal Vatinel. Nous avons également un enregistrement d'un échange avec Zahu, et puis nous avons rencontré Carole Chey et Carole Chey et Cécile Roumiguer, pardon. Oh là là, c'est la fin de l'émission, monsieur Pignon, hein. Justement, nous y venons pour concocter cette émission, la propulser, la radiodiffuser jusqu'à vos oreilles. Eh bien, il y a eu toute une équipe qui aura travaillé là-dessus, à savoir notre ami Damien qui aura fait bon nombre de reportages micro-trottoir qui aura été posé des questions multiples à toutes les personnes qu'il a pu rencontrer. Nous avons eu Monsieur Pignon à la réalisation qui nous aura mené ça de main de maître. Toute émission qui se respecte avait des experts. Donc nous avons eu également notre experte en littérature jeunesse, à savoir Enola. Et puis moi-même qui vous ai amené tout au long de cette journée, de cette émission, pardon, pas de cette journée, de cette émission, ça suffira bien. Vous pourrez retrouver l'intégralité des émissions réalisées à l'occasion de ce salon du livre de jeunesse sur les podcasts de Principe Actif. Et puis voilà, continuez à lire, promenez-vous et puis profitez, quoi. On est dimanche, non? Allez, à bientôt.
FM.
En direct de ce salon du livre de la jeunesse où on croise bon nombre d'auteurs, il y a énormément de stands. Moi je le découvre, je me balade dans les allées qui sont pour le moment encore relativement aérées. On m'a évoqué le fait que c'était noir de monde dans quelques instants, très certainement, avec un monsieur qui porte le prénom de Richard, si je ne m'abuse.
Richard, tout à fait.
Bonjour Richard.
Bonjour.
C'est vrai que ça m'a interpellé, je vous ai vu près de l'auteur et illustrateur qui est PEF, que vous ne saviez pas a priori qu'il était là, c'est ça? C'était une surprise?
C'était une surprise, une très belle surprise. Rencontrer PEF, c'est rencontrer une légende, tout simplement. C'est plein de souvenirs de gamins qui reviennent, c'est extraordinaire. C'est vraiment un monument pour moi.
Ah, donc là, en fait, vous veniez naturellement ici au Salon du Livre de la Jeunesse, et donc, paf, gros coup de bol.
On tombe sur le monument, en face de nous. Et PEF, ça évoque... c'est ce qu'il dessine, c'est aussi bien à la maison qu'à l'école, c'est quelqu'un qui fait partie intégrante de la jeunesse à tout le monde.
On peut imaginer qu'il a même contribué aujourd'hui à ce que vous êtes, c'est-à-dire de l'humour, au niveau de la personnalité.
De la répartie, ouais. un petit esprit frondeur.
Et du coup, vous venez là tous les ans ?
Tous les ans.
Vous ne loupez jamais le festival de la jeunesse, d'accord.
Tous les ans. Oui, oui.
Profiter pour la motivation, c'est découvrir de nouveaux ouvrages ou au contraire venir avec déjà une partie de votre collection ou de ce que vous avez pour les faire illustrer, ou les deux peut-être ?
Les deux, découvrir des nouveaux ouvrages et aller à la rencontre des auteurs, voir ceux qui sont derrière le livre en vrai.
Pas déçu ?
Pas du tout déçu.
Très souvent, ouais.
Ah oui, très souvent, mais c'est même à chaque fois, c'est fantastique.
Avenant, à l'écoute.
Tous à l'écoute, tous très charmants, tous disponibles, parce que je pense que dédicacer toute la journée, c'est quand même
usant, sûrement.
Et non, tout le monde très disponible et puis une très bonne ambiance. Non seulement les dédicaces, mais aussi les ateliers, il y en a pour tout le monde. C'est un très bon moment.
Eh bien, merci beaucoup, Richard.
Merci.